Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon.
Je vais terminer en parlant de Europe, US et Chine, d'accord ? Voilà, donc je vais parler un petit peu du décrochage technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis, et ensuite je vais parler de la Chine. Donc voilà, là je vais me baser beaucoup sur un excellent article qui a été écrit par notre collègue Antonin Bergeau, prix du meilleur jeune économiste 2025, qui fait partie de notre laboratoire d'innovation au Collège de France, qui est professeur à HEC également. Et voilà, et il regarde un petit peu les grandes tendances de la productivité européenne et américaine sur une longue période. Et en gros, ce qu'il montre, c'est que l'Europe connaît une croissance fulgurante durant les années d'après-guerre, qui est due essentiellement au rattrapage. On a beaucoup parlé du fait qu'on peut croître par rattrapage ou par innovation à la frontière. Donc vous avez déjà, vous savez, je vais souvent par cercle et par, vous connaissez tout ça. Donc des fois, vous avez l'impression que je me répète, mais quand même, l'idée, c'est que ça rentre bien. Et j'espère que c'est des spirales et pas juste des cercles. Et puis, voilà. Mais depuis les années 80, là, disons le milieu et fin des années 80, la productivité européenne tend à décélérer et l'écart de PIB par tête notamment, mais avec d'autres mesures également de technologie, se creuse entre l'Europe et les États-Unis depuis 1995, d'accord ? Alors, en fait, si vous voulez, pourquoi c'est pas une situation qui nous paraît énorme, qui peut paraître normale ? Parce que, d'abord, l'Europe a de nombreux atouts qui devraient soutenir son innovation et sa croissance. D'abord, on a des universités, on a été le berceau des grandes universités. Je veux dire, l'université libre, ça s'est bâti d'abord en Europe. Nous avons des grandes universités et nous avons des systèmes éducatifs qui étaient quand même de bons systèmes éducatifs, même s'il y a eu un peu d'détérioration des systèmes éducatifs, notamment dans notre pays. On a un marché intérieur, c'est quand même plus de 400 millions de consommateurs, donc on a quand même un énorme marché a priori. Et dans le déploiement et la régulation des technologies vertes, on a joué un rôle, disons, leader, d'accord ? On a un certain nombre de... Et puis voilà. Et évidemment, comme vous le savez, on a des mathématiciens, des informaticiens de grande qualité, parmi les meilleurs au monde. Alors là, je... Oui, voilà. Oui. Alors là, je ne dis rien, là, parce que je laisse... Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, la productivité, voilà. Donc, la productivité, c'est la quantité de richesses produites en fonction des ressources utilisées, telles que le travail, le capital, le temps. C'est étroitement corrélé au niveau de vie. C'est évident que plus on a une productivité importante, plus, on a, par habitant, il y a davantage de revenus disponibles pour consommer, pour épargner, pour faire plein de choses, d'accord ? Voilà. Et donc, c'est important de regarder l'évolution. Alors, je sais que le PIB n'est pas le seul indicateur. Il y a d'autres indicateurs de développement. Mais c'est évident que quand on a une croissance du PIB par tête qui est nulle, on voit tout de suite qu'on peut se permettre beaucoup moins de choses que quand on a un demi-point de croissance, un point de croissance. En plus, on le sent bien. On voit bien en ce moment dans les discussions budgétaires, si nous avions seulement un point de croissance en plus, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire ? On résoudrait plein de problèmes. Hein ? On voit bien, on le voit dans ces moments-là, quand même qu'on ne peut pas totalement ignorer l'indicateur du PIB par tête, même si ce n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. D'accord ? Augmenter la productivité vous permet de réduire le temps de travail tout en maintenant le niveau de vie. Ça permet également de consommer moins de ressources tout en préservant le même niveau de vie. Si vous regardez un petit peu au cours des 30 dernières années, vous voyez un peu l'évolution du PIB par habitant en Europe et aux États-Unis, et vous voyez que la croissance du PIB par habitant en moyenne sur les 130 dernières années aux États-Unis, c'est à peu près un peu plus de 2% par an. En Europe, la croissance suit une tendance moins régulière. Évidemment, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, hein, on voit très bien l'effet de la Deuxième Guerre mondiale ici, évidemment. Mais on a un niveau un peu plus faible. Donc on peut dire, si on regarde en termes de croissance moyenne, on est un petit peu en dessous sur les 130 dernières années que les États-Unis, mais ce n'est pas dramatique. D'accord ? Mais c'est maintenant, on va voir les choses. C'est, évidemment, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce petit écart de taux de croissance, évidemment, il s'accumule au cours des années et ça se traduit au bout d'un certain nombre d'années par une différence substantielle de niveau de vie. Parce que un petit peu plus, une croissance un peu plus petite chaque année, quand vous êtes sur 130 ans, eh ben, ça vous fait à l'arrivée un PIB par tête qui est quand même un niveau de PIB par tête qui est sensiblement plus bas. Hein, d'accord. Donc même des petits niveaux, des petites différences de taux de croissance, sur beaucoup d'années, ça vous donne quand même des différences de PIB par tête qui deviennent importantes. D'accord. Alors comment expliquer un peu tout ça? Alors cet article de Bergeon étudie les déterminants de l'écart entre les États-Unis et l'Europe, et le principal facteur, c'est le niveau de productivité. C'est pas tellement parce que on a moins de capital, c'est vrai que nous avions moins de, c'est surtout vraiment la productivité qui est vraiment le voyez, c'est pas, il y a d'autres, il y aurait le taux d'emploi. Alors c'est vrai qu'en France on n'a pas un taux d'emploi génial, mais si on regarde niveau européen, on a un taux d'emploi raisonnable. Le temps de travail moyen, c'est pas très différent. C'est vraiment la productivité des facteurs, c'est-à-dire vraiment le niveau technologique, si vous voulez, hein, la productivité globale des facteurs, ce qu'on appelle TFP, c'est Total Factor Productivity, c'est la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire le PIB divisé par capital, travail, capital humain, etc. Alors l'Europe est presque systématiquement en deçà des États-Unis en termes de productivité pendant ces 130 ans, d'accord ? Cet écart diminue beaucoup entre 50, disons à l'après-guerre et 1980, parce qu'il y a un rattrapage économique de l'Europe par rapport aux États-Unis. D'accord ? Alors, mais depuis les années 90, l'écart se creuse à nouveau. Voilà. Alors, pourquoi on reviendra sur les raisons pour lesquelles il y a rattrapage. Alors maintenant, on peut représenter différemment. Ici, dans ce graphique, je mets le PIB par tête américain à 1. Et je compare par rapport au PIB par tête américain normalisé à 1, quelle est l'évolution du PIB par tête européen. Alors vous voyez qu'évidemment, là c'est la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, ce qui se passe avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est que on peut plus innover, et surtout on a une destruction de notre stock de capital. Donc c'est ça qui fait qu'on produit moins, du capital est détruit, d'accord. Donc il faut rattraper. Alors évidemment, vous avez les 30 glorieuses sont là. Hein. Là, on a un rattrapage de l'Europe par rapport aux États-Unis. C'est cette partie. Donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, vous voyez qu'on a un niveau de productivité similaire entre l'Europe et les États-Unis. On a une forte expansion de la productivité aux États-Unis pendant l'entre-deux-guerres. C'est la croissance fordiste, c'est la révolution fordiste, hein, c'est l'électricité qui vous donne le fordisme, on en a parlé dans les leçons précédentes, donc c'est le fordisme, ça commence chez eux, donc là c'est vraiment, effectivement, il y a une forte expansion de la productivité aux États-Unis, et ça c'est le 2, d'accord. Et donc là, il y a un relatif décrochage déjà de l'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale, dû au fait que simplement le fordisme, ça commence chez eux, et que la révolution de l'électricité, en gros, qui donne le fordisme, hein, qui commence chez eux et qui ne s'est pas encore diffusé à l'Europe, d'accord. Et voilà. Mais maintenant, on passe à la partie 3. C'est-à-dire que, en fait, eh bien, alors la partie 3, c'est le rattrapage. C'est-à-dire que, après, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a deux choses. On reconstitue, l'Europe reconstitue son stock de capital grâce au plan Marshall. Et puis, on a un certain rattrapage technologique, c'est-à-dire qu'on rattrape la révolution technologique de l'électricité après la guerre, et le niveau éducatif en Europe favorise évidemment l'absorption des technologies américaines. Et donc, on a cette... Alors même que les États-Unis connaissent une forte croissance pendant l'après-guerre, nous rattrapons les États-Unis. C'est-à-dire qu'on croit encore plus vite que, disons, entre 45 et 85. Voilà, donc ça, c'est la période de rattrapage européenne par rapport aux États-Unis. D'accord ? Ça, c'est cette partie-là. Mais ce qui se passe, c'est que donc la productivité, donc ce que je disais, c'est que vous avez une productivité européenne qui connaît une hausse considérable, une multiplication par 3 de la consommation par habitant, une baisse du temps de travail au profit du loisir. Voilà, donc ça, c'est vraiment les bonnes années, d'accord ? D'accord, donc si vous voulez, donc il y a plusieurs raisons, comme je mentionnais, il y a des pertes de capital pendant la guerre et on reconstitue le capital, et puis on rattrape la technologie américaine grâce au niveau éducatif en Europe. D'accord ? Donc ça, c'est toute la partie. Voilà. Donc simplement, donc ce que je disais, le plan Marshall, l'effort de reconstruction, l'adoption de méthodes d'innovation industrielle américaine en Europe, et voilà. Alors, en partie, une partie des transferts technologiques s'effectue d'ailleurs par l'implantation d'entreprises américaines innovantes en Europe. Elles y apportent leurs innovations qu'elles font protéger par des brevets. Ça permet d'ensuite d'y commercialiser leurs technologies. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'on a permis, évidemment, l'implantation d'entreprises américaines en Europe. On a fait un petit peu ce que les Chinois font maintenant avec les Occidentaux. Voilà. Alors, et on voit d'ailleurs le graphique qui est là représente la part des brevets en France et en Allemagne qui sont déposés par un individu en entreprise qui sont américains. Vous voyez que cette part, donc ça c'est la part des brevets en France et en Allemagne, en France c'est en bleu, en Allemagne c'est en rouge, et vous voyez que la part des brevets déposés en France ou en Allemagne, qui sont déposés par des Américains, augmentent très fortement. Donc vous avez implantation d'entreprises américaines et pour pouvoir utiliser leurs technologies innovantes en Europe, elles déposent des brevets en Europe. Vous voyez, donc ça c'est intéressant de voir cette pénétration américaine en Europe pendant toute cette période, entre 1950 et 1980. D'accord ? Donc ça, c'est la période de rattrapage, d'accord ? Et alors, en 1970, les 10 entreprises américaines les plus innovantes représentent près de 6% de l'ensemble des brevets déposés en France et en Allemagne. Parmi elles, tu as IBM, tu as General Electric, tu as General Motors, et les entreprises américaines déposant des brevets en Europe sont donc à la frontière technologique. Donc tu as quand même des entreprises qui sont à la frontière technologique et qui déposent des brevets. Ça permet de rattraper, ça nous permet, nous, de rattraper la frontière technologique beaucoup plus rapidement. D'accord ? On a toute cette période de forte croissance d'après-guerre en Europe. D'accord ? Voilà. Alors après, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe que dans les années fin 80, eh bien, il y a un double truc. C'est que d'abord, nous, on épuise les ressorts du rattrapage. Et plus tu te rapproches de la frontière, plus tu as besoin d'innovation à la frontière pour continuer de progresser. Parce que simplement imiter la frontière, c'est plus très intéressant quand tu es proche de la frontière. Mais ce qui se passe également, c'est que se déroule dans les années 90, et on l'a vu, il y a vraiment l'irruption de la révolution des technologies de l'information. Hein, voilà. Et donc l'informatique et les logiciels transforment l'organisation des activités productives, les gains d'efficacité potentiels sont considérables, mais en pratique, eh bien, l'impact sur la productivité semble jusqu'à présent avoir été modéré en Europe. C'est-à-dire que l'Europe ne parvient pas à tirer pleinement parti de la révolution des technologies de l'information qui, évidemment, est initiée aux États-Unis. C'est la révolution qui est le décollage, je vous ai montré, entre 1995 et 2005. La croissance américaine augmente de 0,8 points de pourcentage par an en moyenne sur 10 ans. Et l'Europe n'arrive pas vraiment à récolter les fruits pleinement de cette révolution. D'accord ? Donc, on pourrait donc lier le décrochage de l'Europe à l'échec, à notre inaptitude à nous approprier des technologies de l'information. Alors, pour tester cette hypothèse, Antonin Bergeau compare l'évolution de la productivité d'entreprises ayant a priori un fort potentiel d'adoption des TIC, des technologies d'information et communication, à celles ayant un plus faible potentiel d'adoption en Europe et aux États-Unis. Et du côté européen, on utilise cette base de données IUCLEMS, qui sont des données sectorielles sur les inputs, sur les intrants et la production, input à output pour l'ensemble des entreprises. Cette base de données permet de mesurer la productivité du travail, la quantité de capital utilisé dans la production, en particulier la quantité de matériel et de technologies informatiques. Et ces données permettent de suivre chaque secteur de l'économie à travers le temps, des années 90 jusqu'à présent. D'accord ? Et donc Antonin se concentre sur les 8 pays les plus importants, économiquement les plus forts de la zone euro, et il classe les entreprises entre 32 secteurs dont on étudie l'intensité d'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Donc comment on mesure l'intensité en TIC ? C'est le ratio entre la valeur du stock de capital en TIC et la valeur de l'ensemble du stock de capital. D'accord ? Et des secteurs ayant une intensité en TIC supérieure à la médiane sont considérés comme fortement exposés à la révolution des TIC, tandis que donc ils ont un fort potentiel d'adoption de ces technologies, et les autres, ceux qui sont en dessous de la médiane, ceux qui ont une intensité inférieure à la médiane, sont considérés comme moins exposés. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Donc, on utilise des données similaires du côté américain, d'accord ? Et donc, cela permet de comparer la situation des deux côtés de l'Atlantique. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, aux États-Unis, les entreprises ayant un fort potentiel pour l'adoption des technologies de l'information ont connu une hausse fulgurante de leur productivité du travail, multipliée par 2,3 entre 1995 et 2019, d'accord ? Les above médianes, vous voyez ? Donc ça, c'est la bleue, d'accord ? En US, vous voyez ? Donc US, c'est donc le US, c'est les bleus et l'Europe, c'est les rouges, d'accord ? Et vous voyez que voilà, les entreprises ont eu un fort potentiel, de profiter des TIC, eh bien, elles augmentent beaucoup la productivité. En Europe, ces entreprises à fort potentiel ont connu une croissance décevante. La productivité est multipliée seulement par 1,3 entre 1995 et 2009. Donc, des entreprises qui étaient le plus, qui avaient une plus grande propension à tirer parti de la révolution, eh bien, en Europe, il se fait qu'elles n'en tirent moins parti qu'elles auraient pu le faire si elles étaient implantées aux États-Unis. Donc, les entreprises européennes ont bien échoué à intégrer les apports de la révolution des technologies d'information, aussi bien que l'ont fait leurs contreparties, leurs concurrentes américaines. D'accord ? Mais quelles sont les raisons de cet échec ? L'Europe n'aurait-elle pas assez investi pour développer ces innovations ? Alors, le graphique représente les dépenses de recherche et développement en proportion du PIB pour les quatre principales puissances économiques mondiales. Eh bien, vous voyez que les dépenses en R&D sont en légère hausse depuis 1991, atteignent 265 milliards d'euros, 2,3% du PIB, d'accord ? Elles sont inférieures aux dépenses américaines. Donc ça, c'est Europe, hein ? Donc ça, c'est du côté Europe, d'accord ? Donc ça, c'est du côté européen. D'accord ? Et du côté américain, vous voyez que elles sont inférieures aux dépenses américaines qui atteignent 3% du PIB. Donc ça veut dire que, en fait, en termes de dépenses totales en R&D en fraction du PIB, du produit intérieur brut, les États-Unis investissent plus que nous, l'Europe, en R&D. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Seule l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique atteignent le seul 3% du PIB investi en R&D. Et pourtant, on avait, nous, le plan stratégique 2020, mais on n'a pas investi suffisamment. On continue de sous-investir en France, en R&D notamment, hein, mais dans l'Europe plus généralement, sauf la Belgique et l'Allemagne. Donc cet écart n'est pas lié à la R&D publique. En fait, l'Europe, comme les États-Unis, consacre 0,8% de leur PIB en termes de R&D publique. Donc, c'est vraiment le secteur privé, en fait, chez nous. C'est-à-dire que les dépenses, c'est le secteur privé qui n'investit pas suffisamment en recherche-développement. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que le sous-investissement du secteur privé dans la recherche-développement est particulièrement prononcé dans les secteurs high-tech, les TIC, les technologies d'information, les biotechnologies. En Europe, seuls 8% des dépenses de R&D privées sont consacrées aux technologies de l'information, contre 30% aux États-Unis. À l'inverse, les entreprises européennes surinvestissent dans certaines mid-tech. Donc les États-Unis, ils font du high-tech et nous, on fait du mid-tech. Et en fait, par exemple, 50% des dépenses de R&D privées en Europe contre 30% seulement aux États-Unis sont dans le mid-tech, notamment dans l'automobile, mais l'automobile thermique, pas l'automobile électrique, d'accord ? Automobile, transport, chimie, voilà, donc ça c'est les secteurs traditionnels. Donc le sous-investissement des entreprises européennes en R&D high-tech est également visible dans les données de brevets. L'Europe représente 13% des dépôts de brevets dans le monde, mais elle ne dépose que 9% des brevets mondiaux dans les secteurs high-tech. Vous voyez, le high-tech, c'est ce qui est en bas, vous voyez ? Et on voit que le déclin européen est beaucoup plus prononcé dans le high-tech que pour l'ensemble des brevets. Donc il y a un déclin européen en général pour le dépôt des brevets. Vous voyez l'irruption de la Chine, hein, d'ailleurs, le vert, c'est la Chine. L'irruption de la Chine, le déclin de l'Europe. Moi, j'étais en Chine il y a 2 semaines, c'est vibrant la Chine. Et on disait qu'il allait avoir un ralentissement chinois, peut-être qu'il en aura un, mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils ne parlent que de destruction créatrice. C'est en fait le pays où je devrais aller m'installer. Ils adorent la destruction créatrice, ils sont dans l'innovation, c'est passionnant. Vous revenez ici, on parle que de Tak Zuckman. On se dit qu'on est chez les fous. Mais moi, je conseille beaucoup d'aller voyager ailleurs. Je crois que c'est très important d'aller, je crois que c'est très important pour, je trouve qu'on devrait, peut-être aussi important que le service militaire, je trouve que chaque Français devrait avoir un séjour à l'étranger, même prendre le Thalys, maintenant ça s'appelle Eurostar, faire 1h20 de train, et voir la France de 1h20 de train, quoi. Je trouve que c'est très utile. Moi, j'inclurais dans le service national voyage obligatoire hors des frontières françaises, quoi. Je crois que c'est très... Ça, c'est une première proposition que je... Voilà. Alors, pour mieux analyser ce sous-investissement, Tonin Bergeau se concentre sur 6 technologies de pointe cruciales pour l'innovation des années à venir. Le blockchain, impression 3D, vision par ordinateur, édition génomique, stockage d'hydrogène, véhicule autonome. Pour identifier les brevets appartenant à chaque catégorie, il utilise une méthode basée sur le machine learning. D'accord ? Les US et la Chine dominent les domaines de la vision par ordinateur et de la blockchain. Donc, les États-Unis, c'est en rouge, et la Chine, c'est en vert. Vous voyez, le blockchain, le vert et le rouge dominent. L'Europe est très peu, là, présente dans ces innovations commercialisées, dans ces technologies digitales. Vous voyez, l'Europe, elle est en bleu. Vous voyez, c'est tout, c'est tristounet, hein. D'accord ? La situation est assez similaire dans le domaine de l'édition génomique. Vous voyez, c'est surtout le rouge et le vert qui dominent. Et le bleu, non. L'Europe était peu présente dans l'innovation, elle est presque exclusivement américaine. En revanche, l'Europe réussit à maintenir dans le stockage d'hydrogène et dans une moindre mesure dans les véhicules autonomes et l'impression 3D. Ce sont des technologies importantes pour la lutte contre le réchauffement climatique et le fait d'avoir des transports plus écologiques. Donc ça, c'est un domaine où nous avons encore quand même des promesses. D'accord ? Si maintenant on regarde globalement la part de la Chine... la part des brevets européens est en baisse face à la montée de la Chine, d'accord ? Pourtant, les chercheurs européens produisent des travaux qui sont largement incorporés dans les dépôts de brevets. Donc, c'est ça qui est particulièrement frappant. C'est-à-dire que l'innovation de rupture high-tech, elle ne se fait pas tellement en Europe, mais elle repose beaucoup sur de la recherche fondamentale qui, elle, se fait en Europe, d'accord ? Et si vous regardez là, ce tableau représente la part des différentes zones géographiques dans les articles académiques cités par les brevets déposés dans plusieurs technologies de pointe. Et je vous les ai mis là, blockchain, computer vision, génome, etc. Et vous voyez l'Europe très bien placée. Bon, les États-Unis sont devant, mais vous voyez que l'Europe est loin devant la Chine en termes des papiers cités. Donc on a... L'innovation de pointe, où qu'elle soit faite dans le monde, cite énormément de la recherche européenne. Seulement, nous n'arrivons pas, nous, à faire en sorte que notre recherche débouche sur de l'innovation faite chez nous. C'est ça qui est, voilà, c'est ça le drame de l'Europe. C'est ça le problème de l'Europe maintenant. D'accord ? L'Europe est bien représentée dans les citations pour chaque technologie, entre 20 et 30%. Le chiffre grimpe même à 40% si on prend en compte les affiliations à des établissements européens. D'accord ? Ces niveaux élevés contrastent avec la sous-représentation de l'Europe dans les brevets consacrés à ces mêmes technologies. A l'inverse, la part des travaux chinois dans les citations est très faible, à rebours de la part de la Chine dans les brevets déposés. Donc la Chine, elle, c'est le contraire. Ils ont moins de recherche fondamentale pour le moment, mais ils arrivent à faire l'innovation de rupture chez nous, chez eux. D'accord ? La recherche fondamentale européenne alimente donc grandement la recherche appliquée, et l'innovation commercialisée dans le reste du monde, mais l'Europe échoue à convertir elle-même sa recherche fondamentale de pointe en des innovations commercialisées en Europe. Ce sont des entreprises d'autres pays qui s'emparent de la recherche faite en Europe. D'accord ? Seulement un tiers des brevets déposés par des universités en Europe sont exploités commercialement, je pense, en Europe. Comment expliquer ce faible dynamisme de la recherche privée ? 4 facteurs explicatifs. Eh bien, en fait, on retourne un peu à Draghi. Et je parlerai de Draghi, mais Draghi vous le dit. La première chose, c'est qu'on a d'abord des marchés peu contestables. On a assez peu de concurrence, en fait. On a une politique de concurrence en Europe, mais on n'a pas suffisamment de concurrence. Et une des raisons pour laquelle on n'a pas suffisamment de concurrence, c'est qu'on a un marché très segmenté, où chaque pays membre ajoute ses propres réglementations aux réglementations européennes sur le marché des biens et services, ce qui fait qu'on a un marché au total de biens et services en Europe segmenté et donc insuffisamment concurrentiel, malgré le fait qu'il y ait une commission de la concurrence qui soit active à Bruxelles. D'accord ? Nous avons un sous-développement du capital risque et des investisseurs institutionnels, ça je vous l'ai mentionné plein de fois. Nous n'avons pas un bon écosystème pour l'innovation de rupture high-tech qui incite à la prise de risque. Nous n'avons pas des DARPA, l'équivalent des Defense Advanced Project Agency, qui sont une manière moderne et pro-concurrence de faire de la politique industrielle. Nous n'avons pas ça en Europe. Et nous avons aussi un manque de lien entre universités et entreprises. Par exemple, aux États-Unis, ils ont des Technology Transfer Office qui sont très, très bons. Vous allez à Stanford, ou à, ils ont des offices pour aider les chercheurs à transférer leur technologie et à les commercialiser, qui sont extraordinaires aux États-Unis. Nous commençons à mettre ça en place chez nous, mais nous sommes très en deçà de ce qui se fait chez eux. D'accord ? Voilà, donc je vais peut-être avancer un petit peu, d'accord ? Voilà, je voudrais, alors je voudrais dire quand même que les choses sont importantes. Au cours des 20 dernières années, les dépôts de brevets et les dépenses en R&D aux US sont réorientés des mid-tech vers les high-tech. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, non seulement la R&D se concentre toujours sur les mid-tech, mais elle est aussi effectuée par les mêmes entreprises. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plus de destruction créatrice aux États-Unis qu'en Europe. Si vous regardez les 5 entreprises qui innovent le plus, qui brevettent le plus aux États-Unis maintenant, elles sont très différentes des entreprises qui brevetaient le plus, des 5 entreprises qui brevetaient le plus en 2000, tandis que en Europe, c'est les mêmes, parce qu'elles sont restées dans le mid-tech, tandis que les États-Unis, ils sont passés au digital, au biotech moderne, et donc c'est d'autres entreprises qui sont devenues les grandes entreprises innovantes, d'accord ? Par exemple, Siemens, Bayer, ils sont toujours là, quoi, et c'est toujours les mêmes, d'accord ? Voilà, une autre façon de mettre en évidence cette domination des vieilles entreprises, c'est de s'intéresser aux entreprises ayant des capitalisations boursières les plus élevées, au lieu de regarder les brevets. En Europe, la plupart ont été fondées il y a 50, voire plus de 100 ans. SAP, Novo Nordisk, LVMH... aux US, la plupart, celles qui ont les capitalisations boursières les plus élevées, elles ont été fondées il y a moins de 50 ans. Nvidia en 93, Microsoft en 75, Apple en 76. Donc ça vous donne à nouveau l'idée qu'il y a beaucoup plus de turnover aux États-Unis qu'en Europe. Voilà. Cette domination des vieilles entreprises suggère que les marchés européens sont peu contestables. C'est-à-dire que les entreprises en place laissent moins la possibilité aux entrants de venir, de se développer, de prendre leur place. Voilà. Il y a moins de destruction créatrice en Europe qu'aux États-Unis, et malgré une politique de concurrence très volontariste. Et donc, ça nous met dans une trappe de technologie intermédiaire, la fameuse middle technology trap, d'accord ? Donc ça, c'est voilà. Donc, alors évidemment, je ne vais pas parler trop longtemps du rapport de la Bocconi. Il y a le rapport Draghi, mais il y avait un autre rapport qui était le rapport de l'école Bocconi, où de Tirole et l'école économique Toulouse ont participé. Moi, j'étais un peu impliqué jusqu'à ce qu'on me demande de co-diriger le rapport sur l'intelligence artificielle. À ce moment-là, j'ai dit que je ne continuais pas avec l'autre rapport. Et ce rapport fait une décomposition sectorielle des dépenses de R&D pour mieux comprendre l'écart entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, qu'est-ce que montre ce rapport ? Donc, les secteurs économiques sont répartis en 3 catégories dans ce rapport en fonction du niveau technologique. High-tech, plus complexe et récent, logiciels, biotech, produits médicaux, aéronautiques, mid-tech, issus de vagues d'innovation passées, incorporent des high-tech dans leur processus de production et de produits, et leurs produits, et automobiles, chimie, télécom, et puis les autres, c'est des anciennes ou très peu complexes, par exemple la construction. Vous dites, voilà, t'as la construction, après, ça c'est c'est le plus low-tech, t'as le mid-tech qui est automobile, qui est chimie, télécom, et puis tu as le high-tech, logiciel, services informatiques, biotech, aéronautique, d'accord ? Voilà. Et donc, ce que montre le rapport de la Bocconi, déjà, c'est qu'il représente les dépenses en R&D dans chaque zone géographique et leur décomposition par secteur. Aux US, 85% des dépenses de R&D privées sont réalisées par des entreprises dans les secteurs high-tech, logiciels, informatiques, biotech et produits médicaux. Vous voyez ça aux États-Unis, ça représente tout ce qui est en bleu, en fait, d'accord ? En Europe, ça représente moins de 50%. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de savoir. C'est ça, comme ça qu'on regarde. Ça, c'est en millions, mais on regarde les pourcentages. Et tout ce qui est high-tech, software, c'est tout ce qui sont dans les zones bleues. Et vous voyez que la zone bleue, elle est beaucoup plus importante aux États-Unis qu'en Europe. D'accord ? À l'inverse, l'Europe concentre une grande partie de ses investissements en R&D dans les mid-tech, plus de 50% pour les seuls secteurs de l'automobile et des pièces détachées. Aux US, ça représente moins de 15%. D'accord ? Donc, ces différences de composition des dépenses en R&D entre les États-Unis et l'Europe reflètent largement des différences de composition sectorielle des entreprises américaines et européennes. Les US comptent un nombre bien plus élevé d'entreprises dans les secteurs high-tech, alors que les entreprises européennes sont bien plus concentrées dans les secteurs mid-tech. D'accord ? Or, les entreprises high-tech effectuent bien plus de dépenses en R&D que les entreprises mid-tech. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est surtout les high-tech qui investissent en R&D privé, et aux États-Unis, ça représente quelque chose de beaucoup plus important qu'en Europe. Donc, vous voyez que c'est lié à la différence de composition. Ils investissent plus en R&D privé que nous, parce qu'il y a davantage de high-tech, d'entreprises high-tech, qui, par nature, investissent davantage en R&D. Elles sont davantage à la frontière technologique, évidemment. D'accord ? Voilà. Alors, l'intensité en R&D moyenne dans les trois niveaux technologiques, vous voyez high-tech, mid-tech et les autres, voilà, voyez l'Union européenne, voyez donc l'intensité en R&D moyenne, eh bien l'intensité en R&D, le ratio entre les dépenses de R&D et le chiffre d'affaires, ça c'est l'intensité en R&D, et en fait, les secteurs high-tech sont bien plus intensifs en R&D toujours que le mid-tech, ça c'est vrai, mais le problème c'est qu'en Europe, ils représentent une fraction plus petite de nombre d'entreprises. Et c'est pour ça qu'au total, en moyenne, si tu te restreins, les entreprises high-tech investissent plus en R&D, seulement elles sont moins nombreuses proportionnellement en Europe qu'elles le sont aux États-Unis. D'accord. Voilà. Donc, en fait, cette domination des entreprises mid-tech en Europe est problématique au moins à deux points de vue. Une opportunité manquée, la croissance de la rentabilité et de la valeur ajoutée a été bien plus forte dans les entreprises high-tech ces dernières décennies. Et puis, ça veut dire qu'il y a un risque futur. La concurrence américaine et chinoise dans le secteur des mid-tech menace la spécialisation européenne dans les mid-tech. Par exemple, la voiture électrique va menacer les emplois dans l'industrie automobile française. C'est-à-dire que là, on a vraiment un énorme problème qu'il va y avoir peut-être une menace de licenciement massif dans le secteur de l'automobile européen, parce que nous avons loupé, en grande partie, le passage à la voiture électrique. C'est quand même dramatique, hein, c'est des choses, c'est très concret, ça. Voilà, donc j'ai parlé des marchés, les DARPA européennes. Alors ça, je voulais juste dire quelque chose sur la DARPA. Je vous ai dit ce que c'était que la DARPA, la Defense Advanced Research Projects Agency, créée en 58 aux réponses au lancement du Sputnik par l'URSS. Et l'idée, c'est de dire, les États-Unis se disent, on se ridiculise. Il faut que dans les deux ans, on mette un homme dans l'espace. Il faut qu'on rattrape l'URSS. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il va y avoir des missions. Les États-Unis et le gouvernement américain va dire il faut que cette mission soit remplie. Dans les deux ans, on doit mettre quelqu'un dans l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer cette Defense Advanced Project Agency. Et argent vient d'en haut. On a des chefs d'équipe venant de milieux académiques ou industries. On leur dit, vous avez une mission, vous avez 3 à 5 ans pour la réaliser. Vous pouvez susciter autant de projets concurrents, de laboratoires concurrents pour remplir cette mission. Et ça, c'est la partie bottom-up et c'est la partie pro-concurrence de la politique industrielle faite par DARPA. Et la mission doit être remplie. D'accord ? Alors, la DARPA, elle a donné beaucoup de choses. L'Internet, la navigation GPS, les drones militaires... Tout ça, c'est des choses qui doivent beaucoup à la DARPA. La DARPA a eu un rôle à doper vraiment la nouvelle révolution numérique. Elle doit beaucoup à la création de la DARPA. Alors, ça a été fondé, cette agence, cette DARPA, pour des raisons militaires, mais les technologies développées au sein de la DARPA, grâce à la DARPA, ont eu des applications civiles importantes. Donc, je vous dis, Internet, interface cerveau-machine, etc. Donc, ça a été quelque chose de très important. Contrairement à d'autres agences gouvernementales, la DARPA jouit d'une grande indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Elle est structurée de manière à permettre des cycles de recherche rapides sans les lourdeurs bureaucratiques habituelles. D'accord ? Chaque programme est dirigé par un chef d'équipe, un programme manager qui a une grande autonomie pour gérer son budget et son calendrier. Les programmes managers restent en général pour une durée limitée, 3 à 5 ans. Ils sont embauchés donc parmi les universitaires ou industriels, d'accord ? Ce qui renouvelle régulièrement les idées et perspectives parce qu'ils ne restent jamais au-delà de 3 à 5 ans. Les programmes suivent un fonctionnement mission-oriented. Chaque programme est structuré autour d'une mission spécifique liée à des défis technologiques, mettre un homme dans l'espace, par exemple, ou bien production de vaccins ARN messager dans un an. C'est exactement ça. Vous êtes tous là grâce à la BARDA, qui est l'équivalent pour la biotech de la DARPA, d'accord ? Et l'objectif est de diriger le changement technique vers la réalisation d'un objectif technologique ou social bien défini, d'accord ? Le succès de la DARPA a inspiré la création d'autres agences spécialisées, mais similaires. Il y a eu la ARPA Énergie, il y a eu la ARPA Infrastructure et il y a eu la BARDA pour les biotech, d'accord. Les DARPA ont favorisé l'émergence de clusters d'innovation qui produisent des externalités, hein, c'est-à-dire qui ont des effets technologiques sur les autres, de la recherche publique sur les entreprises privées. Ces clusters d'innovation ont joué un rôle important dans la vague restante d'innovation américaine avec l'éthique, c'est-à-dire l'éthique, c'est toujours une innovation fondamentale, mais après, ça donne lieu à plein d'innovations secondaires. Mais le fait qu'il y ait eu la DARPA a permis rapidement que l'innovation de la technologie de l'information donne plein d'innovations secondaires et se répandent dans l'économie, d'accord ? Cet environnement dynamique a contribué à l'évolution, à l'adoption rapide de technologies digitales aux États-Unis, contrastant avec une approche plus conservatrice de l'innovation en Europe. Alors, en Europe, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le Conseil européen pour l'innovation. En principe, il est là pour soutenir l'innovation de rupture. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de rupture, en fait. En fait, c'est du Lampedusa qu'ils font, vous voyez ? Vous avez vu le guépard, non ? Il faut que tout change pour que rien ne change. Voilà, ça voilà. Lampedusa, c'est le Conseil européen de l'innovation. Voilà. Non, je fais un peu, j'exagère un peu là. Hein. Mais j'aime bien un petit peu faire de. Mais malheureusement, ce que vous voyez, pas une Nobel, c'est que chaque fois que je sors des blagues, elles sortent dans le journal le lendemain. Donc c'est très embêtant. Et je dois, sans après, courir après. Mais non, je n'ai pas voulu. Voilà. Alors, il s'inspire officiellement des DARPA américaines. Mais les DARPA soutiennent des projets loin de la commercialisation, alors que la plupart des moyens à la disposition du Conseil européen pour l'innovation sont alloués à des projets déjà très proches de la commercialisation, à faible risque et à faible rendement. C'est ça qui se passe, et c'est ça qu'ils ont regardé. Vous voyez, on peut regarder les stades. Vous voyez, le 1, c'est la recherche très fondamentale. Et puis, on va vers le 9, qui est les stades plus avancés. Donc, on peut, pour mesurer l'état d'avancement d'une technologie vers la commercialisation, on utilise ce qu'on appelle le Technology Readiness Level. C'est à quel point on est loin de la commercialisation. Le 1, on est très, très loin. On est au stade vraiment recherche très fondamentale. Et donc, voilà, les technologies entre 3 et 4, vous voyez, c'est les technologies qui atteignent le stade du proof of concept, c'est-à-dire on peut commencer à regarder la faisabilité. Le 5, c'est les technologies ayant atteint la phase de démonstration. Au-delà de 5, c'est des technologies dont on a démontré qu'elles étaient implémentables et dont la commercialisation peut être lancée, d'accord ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que les DARPA soutiennent des technologies naissantes au début de leur conception. Alors, le tout début, 1 et 2, c'est fait à l'université, c'est fait dans des laboratoires de recherche. Mais dès qu'on arrive au niveau 3 et 4, là, ça devient des entreprises qui sont financées par les DARPA, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ça, c'est intéressant. Et voilà. Et donc, et les capitaux privés, ils financent plutôt les dernières étapes de commercialisation. Le Conseil de recherche européen, et notamment le programme Accelerator, accompagne particulièrement les technologies plus avancées, celles qui sont déjà proches de la commercialisation, et pas ceux qui sont au niveau. Vous voyez, vous devez vraiment. La DARPA, c'est vraiment l'idée. J'ai la recherche fondamentale qui est faite, et je dois passer du stade de la recherche fondamentale à la commercialisation, et il y a un problème de coordination de moyens et d'agents pour avoir s'il y a une courbe en S, si vous voulez. C'est ça la logique de la DARPA, c'est que vous avez une courbe en S, c'est que vous avez la recherche fondamentale a été faite, et vous devez passer au stade de la commercialisation, et c'est ce stade-là comment coordonner des moyens et des agents que la DARPA aide à faire. Mais la European Research Council, elle s'occupe déjà là, vous voyez, elle est déjà là, la European Research Council. Elle ne s'intéresse pas à ça. Elle n'aide pas au décollage, au passage du fondamental vers le... Voilà. Donc voilà. Et donc, le gros problème, c'est que... Et en fait, la European Research Council, ça finance des PME, ce qui est très bien, mais ce n'est pas de l'innovation de rupture, et c'est beaucoup des bureaucrates qui s'en occupent, quoi. Ce n'est pas des gens qui viennent de l'industrie tellement, ou de l'académique, c'est des bureaucrates qui s'en occupent. Et ça, c'est le gros problème de la European Research Innovation Council. Sous-développement du capital risque, mais ça, j'en ai parlé, l'écosystème d'innovation est incomplet en Europe, en particulier son pan financier, le capital risque est peu présent en Europe, alors qu'il joue un rôle primordial dans le financement de jeunes entreprises innovantes et risquées aux États-Unis. Le capital risqueur, il vous accompagne. Par exemple, Union Square Ventures, créé en 2003, investit majoritairement dans des entreprises américaines disruptives, des technologies de l'information, prend des parts dans Twitter. Le dernier fonds en date a mobilisé 275 millions de dollars. Vous voyez, donc ça c'est juste un exemple. Hein. Voilà, donc ça, c'est le gros... Parce qu'il faut, aux États-Unis, à nouveau, comme je vous l'ai dit, on encourage le risque, la prise de risque. L'échec à court terme est encouragé. C'est bien d'échouer. Nous, dans notre culture, c'est toujours mauvais d'échouer. Chez eux, l'échec à court terme est encouragé. Donc le capital risqueur, il dit, c'est pas grave si vous échouez à court terme, je suis là, je vais vous aider, je vais vous soutenir. Les investisseurs institutionnels font la même chose avec les entreprises plus grosses. Ils disent aux managers d'entreprises plus grosses, c'est pas grave si vous échouez à court terme, je suis là, je vais vous aider à innover à long terme. Et nous, nous n'avons pas en Europe, les banques, elles sont très court-termistes en fait. Elles sont pas là à dire dans 10 ans, j'attends que ça réussisse dans les 10 ans. Si vous échouez dans un court terme, c'est pas bon. Et ça, c'est vraiment ce qui manque chez nous. Nous n'avons pas la culture de la prise de risque à long terme. Nous n'avons pas la culture pour encourager les gens à dire « je suis prêt à prendre des risques et à échouer ». L'échec n'est pas du tout infamant. L'échec est une bonne chose. Et j'encourage l'échec. C'est bien si vous échouez, c'est que vous avez essayé. Ça, c'est dans la culture américaine. Ça, c'est insuffisamment chez nous. Voilà. Et ça se traduit évidemment dans l'organisation du système financier. Alors, je dis également qu'il y a une mauvaise connexion entre universités et entreprises privées. Ces relations sont pourtant cruciales pour intégrer les découvertes de la recherche fondamentale dans l'innovation commerciale et générer des gains de productivité. Je vous ai mentionné le fait que il y avait eu une expérience en France qui avait bien marché, et quand quelque chose marche bien en France, je suis le premier à le dire et à le clamer partout, c'est les laboratoires d'excellence. Toujours Bergeau avec d'autres co-auteurs ont écrit ce papier où ils montrent, on savait que Sarkozy, il avait fait le grand emprunt en 2008, et il avait créé il avait créé les LABEX, les laboratoires d'excellence. Les jurys internationaux sélectionnent des projets de laboratoires d'excellence en recherche, et donc ces laboratoires sont dotés de fonds pour 10 ans. 10 ans, c'est long. Et à nouveau, c'est l'idée d'encourager la prise de risque sur longue période. Et bien, ce qu'ils ont montré, c'est que là où il y a eu des LABEX, eh bien, ça a encouragé l'innovation de rupture dans des industries qui étaient géographiquement et technologiquement proches des LABEX, c'est-à-dire travailler sur les mêmes sujets que le LABEX et situés dans les zones géographiquement proches. Parce qu'en fait, ils collaboraient. Parce qu'en fait, le LABEX, eh bien, ils envoyaient leurs étudiants dans les entreprises, ils avaient des contrats, et ça a permis de la transfert de technologie vers les industries, et ils ont fait l'innovation de rupture. Autant, il n'y a aucune étude qui montre un effet quelconque du crédit impôt recherche sur l'innovation. Zéro. Zéro. Autant les LABEX, ça a été un succès. Voilà, ça a marché. C'est l'exemple que nous avons chez nous, que nous voudrions exporter dans d'autres pays européens, de transfert entre l'université et l'industrie. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a très bien marché. Donc pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche bien chez nous, l'encourager. Voilà, je ne veux pas. Voilà. Alors il y a l'IA évidemment. L'IA est un énorme espoir de rebond de la croissance. Comme je vous l'ai déjà dit, l'IA, ça automatise des tâches, non seulement dans la production des biens et services, mais également dans la production des idées. Ça rend l'innovation plus facile, les idées sont plus faciles à avoir. Je peux plus facilement recombiner des anciennes idées pour trouver des nouvelles idées avec l'IA, et je peux plus facilement sélectionner parmi ces idées potentielles pour avoir des idées que je vais expérimenter. Donc ça, c'est formidable. Mais si vous regardez, eh bien, les États-Unis ont 61 modèles de machine learning, la Chine 15, la France n'en a que 8 et l'Allemagne 5. Les écarts d'investissement avec les US sont encore plus marqués, 67 milliards de dollars d'investissement IA aux États-Unis et 11 milliards au total en Europe, dont moins de 2 milliards en Allemagne et en France. D'accord ? Donc on est très en deçà en termes d'investissement IA par rapport aux États-Unis. Alors, le retard européen dans l'IA est confirmé par l'analyse en termes de nombre de brevets déposés. En moyenne, l'Europe dépose 475 brevets par an dans le domaine de l'IA. Aux États-Unis, c'est 3 fois plus. Et l'Europe, hein, je veux dire, pas la France, l'Europe. Donc, ils sont en avance sur nous. Alors, les facteurs aggravants, l'innovation dans le domaine de l'IA sont particulièrement complémentaires à la R&D privée. C'est le domaine où se concentre le retard européen. La fragmentation nationale des dépenses en R&D en Europe est incompatible avec l'émergence de géants dans la high-tech et en particulier dans l'IA. C'est pour ça qu'on recommandait de créer l'équivalent du CERN. Vous savez, le CERN, c'est l'accélérateur de particules européen qui est à Genève. Il faudrait créer un méga-centre, un giga-centre en IA. Et il y a des idées. Et là, il y a une initiative. J'étais ce matin, il y avait Adopt AI au Grand Palais. Et je sais que, par exemple, la France et l'Allemagne travaillent dans la mise en place d'une DARPA IA jointe franco-allemande. Bon, là, ça, c'est une bonne initiative. Tout ce qui peut être fait dans cette direction pour que les pays européens se mettent ensemble et de bon augure, évidemment. Hein. Voilà. Donc, en gros, eh bien, alors que, pour résumer la partie Europe, alors que l'Europe avait pas mal rattrapé les États-Unis entre 1945 et le milieu des années 80, eh bien, il y a un décrochage technologique par rapport aux USA depuis les années 80-90. Ce décrochage est particulièrement fort dans les secteurs les plus high-tech, l'Europe n'ayant pas suivi la mue américaine des mid-tech vers les high-tech. D'accord ? D'où l'importance du rapport Draghi. Et je vous ai dit, le rapport Draghi, un vrai marché unique, un vrai écosystème financier, des DARPA et un meilleur lien entre recherche fondamentale et innovation, généraliser les LABEX, avoir du financement de long terme de la recherche qui permette de stimuler l'innovation de rupture. Tout ça, c'est ce que nous devons faire en Europe. Le gros problème, c'est que le rapport Draghi, pour le moment, on dit qu'il n'y a que 10% du rapport qui a été mis en œuvre, mais ça parce que je pense qu'au niveau des 27, on n'y arrivera pas. Il faut coalition of the willing, mais là, c'est très important, parce que qui sont les willing? L'Allemagne, maintenant, semble vouloir faire des choses. La France, pour le moment, veut faire des choses. J'espère que la France continuera à vouloir faire des choses. Je pense que l'Angleterre peut être mobilisée. Je pense que l'Angleterre de Starmer, sur les DARPA et tout ça, ils sont prêts à jouer le jeu avec nous. Et puis d'autres pays européens qui veulent nous suivre. Mais ça sera, je crois beaucoup à l'approche coalition, la coalition des volontaires. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire progresser l'agenda Draghi. Mais voilà où on en est maintenant. Et vous voyez, c'est ça, c'est que le drame un peu, c'est que l'Europe a besoin de la France pour se relever. Et la France, il faut qu'elle soit aux abonnés présents. Où est la France? Voilà. Et les gens regardent les débats parlementaires en France en ce moment avec des grands yeux, quoi. Ils disent, qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce qu'on a besoin de vous pour relever l'Europe, quoi. Voilà, pour remonter la pente, quoi. Voilà, avec en plus les chercheurs merveilleux, on a des gens tellement intelligents. Vous avez vu que Yann Lequin a quitté Meta. Yann Lequin pense qu'on peut aller au-delà des large language models, on peut aller au-delà de ChatGPT, que maintenant c'est dépassé, qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais vous imaginez si on fait revenir Yann Lequin en France et qu'on fait ça en France, vous vous rendez compte? Ça serait extraordinaire. Donc voilà. Donc je veux un peu donner d'optimisme. Alors je vais parler de la Chine maintenant, d'accord? Vous êtes encore en vie? Alors je vais parler un peu de la Chine. Alors là, à nouveau, je vais parler toujours, j'adore parler de mon ami Daron Acemoglu. Parce que je l'utilise toujours comme contre. Il est à la fois un bon copain, mais souvent, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Voilà. Et en fait, si vous voulez, Daron a écrit j'avais parlé des institutions extractives et les institutions inclusives. Daron a été quand même très influencé par la théorie de la destruction créatrice et mes travaux avec Howitt. Mais, si vous voulez, il en a tiré un peu une dichotomie qui peut être très utile. Des fois, vous savez, d'avoir une dichotomie, c'est très utile, ça vous aide à penser beaucoup de choses. Mais tout modèle est simplificateur, mais c'est l'essence d'un modèle. Mes modèles n'y échappent pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans ce livre, qui est un livre qui a eu un énorme succès, qui est un livre, un plaisir à lire, dont le titre anglais, c'est « Why Nations Fail », mais le titre français, j'ai oublié ce que c'est. Vous vous souvenez le titre français? Que j'ai préfacé en plus, alors la honte. Pour dire que c'est très bien, hein. Je n'ai pas dit, ne lisez pas, quoi. Hein, d'accord, donc je ne dis pas quand même. Voilà. Donc, c'est un très beau livre. Mais dans ce livre, ils ont un peu une grille de lecture un peu simple, si vous voulez. Ils disent, voilà, en gros, on peut diviser les pays du monde entre des pays que j'appelle inclusifs et des pays que j'appelle extractifs. Alors, qu'est-ce que c'est leur idée? Donc, des pays extractifs, inclusifs et des pays extractifs. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Dans la théorie schumpeterienne, c'est de dire, la croissance, c'est où? La croissance, c'est des pays où vous avez des nouveaux talents qui arrivent en permanence, vous les laissez se développer, vous les laissez créer des entreprises et croître. Évidemment, à un moment donné, ils vont devenir gros s'ils réussissent bien. Et le danger, c'est qu'une fois gros, ils empêchent de nouveau de venir, notamment en s'entendant avec les gouvernements en place. Je donne un bakchich et hop, et j'empêche... voilà. Et donc voilà comment je fais pour. Et pour eux, si vous voulez, ils ont cette grille là en fait. Mais ils disent il y a deux types de pays. Les pays inclusifs, c'est des pays qui autorisent la destruction créatrice. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont des institutions qui font que sans arrêt des nouveaux talents peuvent arriver et se développer, etc. D'accord. Et les pays extractifs, c'est des pays dans lesquels, eh bien, les gouvernements s'entendent avec les entreprises en place et sont là pour essentiellement vous faire les poches, quoi. Voilà. Et que donc, en gros, il ne peut pas y avoir de nouveaux talents parce que, s'il y a des nouveaux talents, eux, ils sont entendus avec des entreprises en place pour empêcher les nouveaux talents, et ou, si des nouveaux veulent arriver, eh bien, ils vont les exproprier. Voilà. Donc, ça, c'est les pays extractifs. Donc, il dit, voilà, il y a deux types de gouvernements. Il y a les gouvernements inclusifs. Alors, par exemple, c'est intéressant parce que, en général, les démocraties ont tendance à être plus inclusives que les gouvernements non démocratiques. Mais, par exemple, Singapour est un pays qui n'est pas extraordinairement démocratique, mais qui est quand même plutôt inclusif, quoi. Voilà. Donc, il y a des exceptions. Il y a des pays qui sont, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans leur classification, donc, ils disent, en gros, les pays qui s'en sortent, c'est les pays inclusifs, quoi. C'est ceux-là qui vont y arriver. Les pays extractifs, ils vont pas y arriver, quoi. Voilà. Et donc, ils divisent le monde en deux. D'accord? Les pays inclusifs, les pays extractifs. Mais ils mettent la Chine dans le même camp, dans le même panier que la Zambie. Voilà. Donc la Chine, si tu lis sur la Chine dans le livre d'Acemoglou, tu te dis, ils vont manger du riz toute leur vie, tout le temps, quoi. Ils vont jamais en sortir, ils mettront même pas du riz cantonais, quoi. Ils vont rester au riz blanc, quoi. Tu vois, voilà. Ça va rester tout le temps, tu vois, ils vont être totalement bloqués, quoi. Voilà, donc ça, c'est leur... Bah, bon, mais c'est un livre passionnant et il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre et c'est vraiment un des très, très bons livres d'économie que tout le monde devrait lire, d'accord? Mais en gros, tu lis ce livre, tu te dis, la Chine, elle n'a aucune chance. Et moi, j'ai fait un voyage avec Daron et il y avait des gens du comité Nobel à l'époque, en 2013, et nous sommes allés là-bas et en gros... il fallait tenir Daron, parce que le conseil qu'il voulait donner au gouvernement chinois, c'est « disband the communist party ». En gros, c'est de supprimer le parti communiste et vous avez une chance, quoi. C'est un peu compliqué d'aller en Chine et dire ça, tu vois. Je vous souhaite bien du plaisir, quoi. Vous voulez aller là-bas pour dire ça, c'est, voilà. Welcome, welcome, hein, d'accord. Bon, donc, voilà. Ils n'ont pas suivi le conseil de Daron. Il y a toujours un parti communiste en Chine. Est-ce que pour autant, ils ne se sont pas développés? Ben non, là, ils se sont développés. La Chine a connu un développement économique rapide autour depuis Deng Xiaoping, au point de devenir un pôle essentiel de l'économie mondiale. Je vais quand même vous montrer des dessins. Regardez, le taux de pauvreté en Chine, il a significativement diminué au cours de ces dernières décennies. En 90, 72% de la population chinoise avait un revenu journalier inférieur à 2,15 $, seuil de pauvreté établi par la Banque mondiale. En 2019, ce chiffre tombe à 0,1. C'est quand même extraordinaire. Et si vous regardez les taux de pauvreté mondiale, ça c'est aussi des débats que j'ai avec Esther Duflo, que j'aime beaucoup, qui est ma collègue ici. Il travaille beaucoup sur le sous-développement. Et on a un peu un débat. Et ils vont dans les villages, ils font plein de choses, c'est très sympathique. Mais je dis, écoutez, quand même, la croissance, c'est quand même ça qui fait baisser la pauvreté, quoi. Je veux dire, on peut faire plein de trucs, on peut donner un dollar dans un village, ne pas le donner dans le village d'à côté, faire plein de choses très intéressantes, enlever les verres, mettre des verres, etc. Mais ce qui va faire baisser la pauvreté, c'est la croissance. Je veux dire, s'il n'y a pas 36 trucs, la Chine est sortie de la pauvreté grâce à la croissance. Et l'Inde, pareil. Et ça fait chuter la pauvreté mondiale et ça réduit les inégalités mondiales. Si vous regardez globalement, les inégalités, elles ont augmenté dans nos pays, mais globalement, au niveau mondial, les inégalités, depuis 30 ans, ont reculé. Et parce que, notamment, ces pays, grâce à la croissance, sont sortis de la pauvreté. C'est first order, comme on dit. Après, tu peux aller discuter les détails, etc. Mais ça, c'est number one, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça, et quand vous regardez le PIB chinois, il a augmenté à un rythme accéléré, notamment quand il y a eu adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Vous voyez l'accélération, l'accélération de du PIB. Vous voyez le PIB chinois, ça s'accélère et c'est l'adhésion parce que pourquoi? Parce que en fait, ils ont fait du rattrapage et ils ont en grande partie du rattrapage. Pourquoi ils ont pu rattraper? Parce qu'ils avaient un bon... Alors, il y a eu des choses horribles, hein, donc moi, je ne vais pas vous défendre le grand bond en avant, la révolution culturelle, je ne suis pas du tout là-dedans. Hein, c'est pas... Il y a eu des millions de morts, donc je ne suis pas du tout un maoïste, pas du tout. Alors vraiment, il y a eu des trucs horribles. Bon, donc, je ne suis pas en train de vous faire l'apologie du mode... Il y a eu des trucs abominables. Mais il y a quand même un niveau éducatif en Chine qui leur a permis, quand ils ont combiné le niveau éducatif et l'intégration au commerce mondial... Ils ont pu absorber les technologies plus avancées parce que le commerce permet le transfert de technologies. Donc, comme ils avaient un niveau d'éducation élevé, eh bien, ils ont tiré parti au maximum du transfert de technologie permis par, l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est la combinaison entre openness, comme on dit en anglais, l'ouverture au commerce et l'éducation. Ça, ça a été un facteur de croissance extraordinaire. Donc, ils ont réalloué des facteurs de la campagne vers la ville. Ils ont amélioré leur méthode de management. Mais le grand truc, ça a été l'absorption des technologies. Évidemment, ils ont favorisé à fond l'investissement direct étranger. Et ils ont profité à fond de l'intégration à l'organisation. Mais parce qu'ils avaient un niveau éducatif. Si tout le monde était analphabète là-bas, il n'y aurait rien eu du tout. C'est la combinaison des deux. Vous voyez ? C'est très important, ça. Donc... Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas du tout mentionné par mes deux copains, quoi. Voilà. Mais, et donc, vous voyez, le PIB, et le PIB par américain dépasse et même augmente et dépasse en parité de pouvoir d'achat, le PIB chinois dépasse le PIB américain. Pas par tête, hein, le PIB total, ils sont plus nombreux que les américains, donc c'est pour ça que le PIB, en volume, hein. Voilà, donc ça, c'est le PIB total. Évidemment, le PIB par tête est en dessous du PIB par tête américain. Mais le PIB total, ils sont très nombreux, donc évidemment, mais ils ont un PIB qui augmente. Voilà, alors évidemment, donc, comme je vous le disais, cette croissance chinoise très forte est largement portée par le rattrapage. Mais maintenant, la Chine se rapproche de la frontière technologique. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va pouvoir passer d'une croissance par le rattrapage à une croissance par l'innovation. Alors, on a vu que l'Europe a des problèmes là-dedans, elle-même. Nous-mêmes, on était bons dans le rattrapage, on n'est pas super bons dans l'innovation frontière. Je vous ai déjà parlé des Japonais. J'ai dit que les Japonais avaient cru beaucoup par le rattrapage jusqu'aux années 90, et depuis, ils ne sont pas très bons dans l'innovation à la frontière. Mais les Chinois ont le même problème. Voilà, ils se disent, est-ce qu'on va continuer ? Alors, il y a des gens qui disent que... Donc voilà, donc l'idée, je vais aller très vite là-dessus, c'est que je vous dis, il y a toujours deux, on peut croître par le rattrapage ou on peut croître par l'innovation à la frontière. Alors j'aimerais aller un peu plus rapidement, je vais passer tout ça très vite. Non, mais parce que tout ça, je vous l'ai déjà fait. Vous le savez déjà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc je vais simplement passer un petit peu et je vais passer tout de suite à la Chine à nouveau. Laissez-moi avancer dans la Chine. Voilà. Je crois, je vais un petit peu plus vers la Chine. Alors, je vais parler des pays qui ont un problème de trappe, par exemple l'Argentine, mais j'en avais déjà parlé. Je vous avais déjà dit que l'Argentine avait un PIB par tête qui croissait à la même vitesse que le PIB par tête américain. C'est-à-dire que l'Argentine, entre 1870 et 1930, elle a un PIB par tête qui est toujours constant par rapport au PIB par tête. Il est évidemment 0,4%. Il est 0,4. Il est un peu moins de la moitié, je veux dire, du PIB américain, mais du PIB par tête américain, mais il croisse à la même vitesse. Et puis après, vous avez un décrochage argentin, d'accord ? Donc on peut dire que l'Argentine, depuis les années 30, l'Argentine a décroché. On appelle ça, voilà, entre 1870 et 1935, le revenu par habitant de l'Argentine croît légèrement plus vite que celui des États-Unis, d'accord ? Mais à partir de 1940, eh bien, cette dynamique de lent rattrapage se brise, l'Argentine décroche par rapport aux États-Unis. Le pays reste pris dans une trappe de revenus intermédiaires. Donc c'est intéressant, le cas de l'Argentine. Je vous avais déjà mentionné la Russie. Je vous avais dit que la Russie, au début, elle croît beaucoup par accumulation de capital et peut-être rattrapage un peu. Et puis finalement, à un moment donné, eh bien, la croissance de l'Union soviétique, vous voyez, elle s'estompe, elle s'épuise, et parce que l'Union soviétique n'a pas un système qui lui permet de générer de l'innovation à la frontière, autant qu'on pourrait, sauf dans la défense, parce qu'ils ont de la concurrence américaine. C'est le seul domaine où ils continuent d'innover, parce que c'est le seul domaine où ils ont de la concurrence. D'accord. Voilà, donc ça, c'est le domaine, c'est la Russie. D'accord. Bon, par exemple, c'est intéressant de voir ça. C'est par exemple, regardez, l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. Eh bien, dans les économies centralisées, planifiées, comme était l'Allemagne de l'Est ou l'Union soviétique, eh bien, la majorité de la croissance vient de l'investissement, c'est de l'accumulation de capital, vous voyez ? Et très peu pour la productivité. Tandis que quand vous regardez maintenant l'Allemagne de l'Ouest et les États-Unis, la majeure partie de la croissance vient de la croissance de la productivité, vous voyez ? Donc de l'innovation. C'est très intéressant. Hein ? D'accord ? Voilà. Et le problème, c'est qu'au début, quand je suis loin de la frontière, Là, je regarde mon PIB par tête par rapport au PIB par tête de la frontière hier et demain. Eh bien, quand je suis très loin de la frontière, je vais surtout prendre une stratégie rouge, c'est-à-dire une stratégie de rattrapage, d'investissement, d'accumulation de capital et d'imitation. Mais quand mon PIB par tête devient suffisamment proche du PIB par tête de la frontière, américain notamment, je vais passer à une stratégie d'innovation. Et ce qui se passe, c'est que normalement, idéalement, je devrais commencer par une stratégie d'accumulation et d'imitation, et quand j'arrive là, je devrais passer sur la courbe verte, qui est une stratégie d'innovation à la frontière. Mais il y a beaucoup de pays qui retardent. Je vous avais mentionné la Corée. La Corée, pendant la période de rattrapage, il y a les Chaebol, qui sont les grosses entreprises coréennes. Et non seulement elles découragent l'entrée d'entreprises qui ne sont pas des Chaebol, mais elles font pression sur le gouvernement coréen pour ne pas adopter des politiques comme la concurrence qui favorisent la croissance par l'innovation à la frontière. Et c'est pour ça que la Corée, elle continue d'aller sur la courbe rouge, bien au-delà de ce point-là. L'autre exemple, c'est le Japon. L'autre exemple, c'est un peu l'Europe. L'Europe aussi était bien au-delà du point où elle aurait dû passer à une croissance par l'innovation. D'accord. Donc ça, c'est le... Et on se demande, est-ce que la Chine va avoir ce problème-là? Alors, je reviens sur la Chine, parce que c'est quand même... Je veux vous parler de la Chine, ici. Qu'est-ce que vous avez? Donc d'abord, sur l'imitation et le rattrapage, c'est indéniable qu'ils ont eu des stratégies d'imitation et de rattrapage. D'abord, ils ont un taux d'investissement très élevé et des taux d'imitation très élevés. Ils font venir des entreprises étrangères, ils imitent leur technologie, ils investissent beaucoup dans le capital, et donc ils rattrapent. Et en même temps, vous avez des barrières à l'entrée qui protègent les groupes établis, vous voyez, c'est intéressant, parce que c'est pas très important, quand vous faites du rattrapage, d'avoir de la concurrence. Donc c'est important simplement d'imiter, t'as pas besoin de beaucoup de concurrence. Donc les barrières à l'entrée, c'est pas un problème du tout. Au contraire, tu dis, je vais laisser quelques gros champions se développer, je les protège, c'est pas très important. C'est pas très grave, d'accord? Alors évidemment, la corruption est omniprésente, les connexions politiques sont indispensables pour faire fonctionner une entreprise. Donc c'est un système, mais la corruption, c'est embêtant, la corruption, on n'en veut pas, mais un des coûts économiques de la corruption, c'est que la corruption, c'est souvent des entreprises en place qui s'entendent avec les gouvernements pour empêcher l'entrée de nouveaux innovants. Et quand vous êtes une économie en rattrapage, c'est pas très grave. C'est jamais bon, la corruption, mais c'est pas très grave pour la croissance. Ça devient problématique quand vous voulez une croissance par l'innovation à la frontière, puisque là, vous avez besoin de concurrence, et donc, typiquement, vous voulez éviter les ententes et les connivences entre gouvernement et entreprises en place, d'accord? Donc voilà, donc vous êtes dans la période de rattrapage, c'est des forts taux d'investissement, des barrières à l'entrée qui protègent les groupes établis, une corruption omniprésente avec des connexions politiques et une forte réallocation des facteurs de production et une croissance du stock de capital. Et un recours massif aux capitaux étrangers. On parle aussi d'investissement direct à l'étranger. Et c'est IDE, d'accord ? OK ? Et donc regardez maintenant, le graphique présente l'évolution de la part de la valeur ajoutée en Chine qui est produite par les trois principaux secteurs économiques, agriculture, industrie, services. Vous voyez qu'il y a une baisse de l'agriculture, mais vous avez que services, les services montent quand même, l'industrie est toujours importante, mais vous avez quand même, voyez que quand même, les services étaient un peu moins importants que l'industrie manufacturière, et maintenant les services sont passés au-dessus du manufacturier. Donc ce qui se passe dans toutes les économies quand elles se développent, l'agriculture baisse, c'est ensuite l'industrie qui prend le pas, et ensuite c'est les services qui prennent le pas. On voit ça quand même en Chine, mais avec quand même une industrie qui reste importante. Si c'était la France, le rouge aurait chuté. Ça, c'est chez nous. Hein. Trop. Non, on a trop fait chuter le rouge chez nous. Hein. D'accord ? Donc la part de l'agriculture chute significativement, passant de plus de 26% en 90 à moins de 10% en 2018. La part de l'industrie a légèrement diminué et la part des services a considérablement augmenté, signe d'une tertiarisation. On parle de secteur tertiaire pour désigner les services. Ce qui est une bonne chose parce que c'est moins polluant les services que le manufacturier. Donc c'est plutôt une bonne évolution qui est quand même une évolution vers les services. C'est en termes d'environnement, c'est une bonne nouvelle parce que les services, à part les transports, sauf si les transports électriques, sont plutôt moins polluants. Voilà. Alors la Chine a initialement massivement eu recours aux investissements directs étrangers pour financer ces investissements, vous voyez, mais en pourcentage du PIB, vous voyez qu'il y a quand même une baisse des investissements étrangers. Cette proportion a peu à peu diminué à mesure de l'accumulation au niveau national d'un stock de capital. Donc c'est au début, ils n'ont pas beaucoup de capital, ils font venir des entreprises étrangères, mais après ils se mettent à accumuler eux-mêmes du capital, et donc la part de l'investissement étranger baisse dans le stock de capital, d'accord ? Voilà. Donc aujourd'hui, la situation s'est inversée. La Chine est le troisième émetteur mondial d'investissement direct, puisque maintenant, ils investissent, eux font l'investissement direct ailleurs. Avant, ils étaient net importeurs d'investissements directs. Maintenant, ils sont des net exportateurs d'investissements directs. D'accord ? Ça vous donne un peu une idée de la Chine. Hein, d'accord ? L'investissement a fait également l'objet d'un soutien massif. Les dépenses publiques en pourcentage du PIB en investissement, vous avez une dépense publique croissante qui se substitue aux capitaux étrangers dans son soutien à l'investissement. Vous voyez, on a un soutien. Donc ça, c'est vraiment la politique industrielle chinoise. C'est des gens qui sont très pour la politique industrielle, évidemment. Ils soutiennent beaucoup l'investissement. Tout ça, c'est parti du rattrapage. C'est-à-dire que je fais venir des entreprises étrangères, j'investis moi-même dans mon stock de capital, et donc, vous voyez, le stock de capital augmente. Au début, je me repose beaucoup sur les entreprises étrangères pour augmenter le stock de capital. Après, c'est moi qui augmente mon propre stock de capital. Et vous voyez que le stock de capital passe de moins de 35% en 90 à plus de 40% en 2020. D'accord ? Donc, la Chine, maintenant... Voilà, elle rattrape par l'accumulation de capital et de limitation, d'accord, et d'investissements étrangers, ils absorbent les technologies étrangères, etc. La question est de savoir est-ce que maintenant ils peuvent passer à une économie d'innovation. Alors là, il y a un débat, parce qu'on pourrait dire, bon, moi je ne crois pas dans le truc facémoglou, puisque je sais déjà que la Chine n'est pas dans le même camp que la Zambie. La Chine fait mieux que la Zambie, vous voyez, je veux dire. Donc, je ne le mets pas dans le même panier. Mais maintenant, vous pourriez vous dire, oui, mais la Chine... elle peut faire juste du rattrapage, parce que pour aller à l'innovation, il faut beaucoup plus de concurrence. Or, il n'y a pas vraiment libre concurrence dans un pays où tu as quand même peu de démocratie. Et la deuxième chose, c'est de dire, eh bien, il faut de la pour faire des innovations de rupture, il faut de la grande liberté. Est-ce que la Chine, en l'absence de liberté, peut faire des innovations disruptives ? Voilà. Est-ce que ça permet... Et ça, c'est une des grandes questions. Est-ce qu'on peut être disruptif ? Jusqu'où on peut être disruptif quand la limite est... Tu vas en Chine, je vais dire, c'est un pays formidable, mais tout de suite, tu ne peux plus accéder à Google. Tout de suite, tu ne peux plus accéder... Tous les trucs sont coupés, quoi. Tu arrives à Pékin, moi, j'étais il y a 2 semaines, j'ai essayé de brancher Google, moi, je ne savais pas. Tu ne pouvais rien brancher du tout. Tu pouvais juste dire bonjour à Patricia, hein, Patricia, hello, et le reste, rien du tout, quoi. Voilà. Donc, ils ont d'autres systèmes, hein, ils ont d'autres systèmes. Mais... tu vois, il y a quand même, tu sens quand même que, voilà, il y a des choses qui sont, tout n'est pas possible. Voilà. Et la question, est-ce que ça bride l'innovation de rupture? Voilà. Est-ce que l'absence de liberté politique constitue un frein à la poursuite de l'essor chinois? C'est-à-dire, la grande question, est-ce que, à cause de l'absence de liberté, elle va quand même pas tomber dans une trappe c'est-à-dire, elle aura fait de la croissance par l'imitation et la reconstitution de son capital, mais elle n'arrivera pas à faire de l'innovation de rupture. Eh bien, même là, c'est pas aussi clair. Voilà. Peut-être un peu, mais pas complètement. Et je vais vous montrer des choses qui vont vous troubler, Mais quand vous allez à Pékin, vous voyez que c'est un pays vibrant. Vous voyez des immeubles qui étaient des années 50, ils sont déjà en train d'être détruits. Et de nouveau, vous voyez la destruction créatrice sous vos yeux là-bas, encore maintenant. Donc, c'est pas vrai. Ils font de la destruction créatrice. Alors, est-ce qu'ils vont faire la grande innovation cunienne? C'est vrai que la machine à vapeur, c'était en Europe. L'électricité, c'était aux États-Unis. Et les technologies d'information aux États-Unis, et l'IA, États-Unis et Europe. Est-ce qu'il y aura l'équivalent fait en Chine? Pour le moment, non. D'accord? Donc, ça, c'est vrai que pour le moment, les grandes innovations de rupture, pour le moment, n'ont pas eu lieu en Chine. Peut-être ça, ils n'ont pas. Mais ils vont quand même très loin. Et je vais quand même vous montrer jusqu'où ils peuvent aller. D'accord? Donc, en fait, sur le plan de la production d'innovation, elle semble être en mesure de concurrencer les États-Unis. Si on regarde les productions académiques, eh bien, le poids de la Chine est important. Je vous avais déjà montré le poids de la Chine dans les technologies high-tech en matière de brevets. Et vous avez vu qu'il y avait une irruption chinoise et un déclin européen. Donc, on est au-delà de la simple imitation, là. Hein. On est quand même dans l'innovation. Elle est présente dans les technologies de pointe, la 5G, le photovoltaïque, la voiture électrique, d'accord ? Donc, en fait, si vous regardez, eh bien, si on regarde, par exemple, ce graphique représente l'évolution du nombre total de publications d'articles de recherche par les 3 principaux blocs économiques, hein, Chine, Europe, US. Et vous voyez que la Chine, eh bien, elle rattrape beaucoup en termes de nombre de publications. Alors, évidemment, ils sont plus nombreux, d'accord ? Mais ils produisent des articles de recherche. La recherche chinoise en vert, elle a connu un formidable rattrapage par rapport aux États-Unis en bleu, mais aussi par rapport à l'Europe en rouge. D'accord ? On retrouve le même constat quand on se concentre sur le top. Bon, on pourrait dire que c'est des papiers, mais pas terribles. Peut-être qu'ils produisent beaucoup de recherches médiocres. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On se concentre sur les papiers qui sortent dans les meilleurs journaux. dans ce qu'on appelle le top 5, c'est-à-dire les journaux les plus cités, les 5% des journaux académiques les plus cités. Et vous voyez que non seulement la recherche chinoise a rattrapé ses concurrentes en quantité, mais du coup aussi en qualité, puisque vous voyez que même si on se restreint aux publications de pointe, les Chinois rattrapent. C'est extraordinaire. Et vous allez dans les universités chinoises, moi j'étais à Pékin, elles sont d'abord gigantesques les universités. Vous avez des MIT, il y en a une qui s'appelle Tsinghua, c'est le MIT, ça te fait penser vraiment au MIT. Bon, elle a été construite par les Américains au départ, mais elle est vibrante. Et tu en as une autre université qui est la Chinese University of Finance and Economics, c'est gigantesque. Vous êtes 400, ils étaient 700. Et ils sont là, ils viennent vous poser des questions, et ils sont passionnés par la destruction créatrice. Ils sont en plein dans l'innovation, quoi. C'est extraordinaire, ils sont là-dedans, quoi. Ils veulent innover, quoi. Et vous voyez, ça se voit, là. C'est incroyable. Donc, il y a clairement un rattrapage chinois, également sur le plan de la recherche fondamentale. Comment celui-ci se traduit-il en matière de recherche appliquée et d'innovation ? Alors là, on regarde en termes... Voyez, en 1994, la Chine rejoint le traité de coopération internationale en matière de brevets. Eh bien, il s'ensuit un rattrapage majeur en matière de brevets internationaux. Regardez les brevets internationaux, ceux qui sont enregistrés partout, qui sont des brevets quand même suffisamment bons, eh bien, les Chinois rattrapent les États-Unis. Donc, d'après ces données de l'OCDE, la Chine a comblé son retard en termes de nombre de brevets déposés par rapport aux États-Unis en 2018. Et on peut regarder les brevets déposés auprès des institutions nationales, la Chinese National Intellectual Property, on observe cette fois même un dépassement des États-Unis par la Chine. D'accord ? Donc c'est très important. Donc on veut regarder, évidemment, est-ce que le rattrapage... Donc déjà, on voit que quand même, ils publient en termes de papier dans des bonnes revues. On veut voir si les innovations elles-mêmes, c'est des innovations de qualité. Donc cet article-là regarde si le rattrapage chinois en termes de brevets, pas juste de papier de recherche, est également qualitatif et pas juste quantitatif. Il s'intéresse à la dépendance de la recherche chinoise par rapport à la recherche américaine. Il regarde le nombre de citations de brevets chinois dans les brevets américains et le nombre de citations de brevets américains dans les brevets chinois. Et ce qu'il voit, c'est la chose suivante. La courbe en rouge montre qu'il y a une diminution de la dépendance, c'est-à-dire que la Chine cite de moins en moins des papiers américains. Vous voyez, elle a de moins en moins besoin de citer des papiers américains. Donc, elle se dote de capacités scientifiques qui lui sont propres. C'est intéressant, hein ? Et il y a d'autres études qui confirment cette évolution. Par exemple, ce graphique représente l'origine des citations contenues dans les brevets déposés auprès de la Chinese National Institute, patent. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, la part des citations de brevets étrangers bleus et roses chute drastiquement dans les brevets chinois. Ils passent de près de 80% en 2000 à moins de 40% en 2019. Donc, on voit vraiment que dans les brevets déposés en Chine, la part des citations des brevets étrangers baisse. Voilà. Hein? Une autre façon de regarder, c'est de regarder l'origine des déposants de brevets en Chine. La part des étrangers dans le dépôt de brevets en Chine baisse également très fortement, passant pour toutes les technologies étudiées d'environ 60% en 85 à 5 à 20% en 2020, mais selon la technologie que vous regardez. Donc, les innovations commercialisées en Chine sont donc de plus en plus d'origine chinoise, vous voyez. C'est intéressant de regarder, de se rendre compte de ça. Donc, voilà. Donc, il y a un vrai rattrapage, c'est-à-dire que la Chine, elle innove, elle ne fait pas que imiter, elle innove. Elle produit des papiers de bonne qualité, elle produit de la recherche de bonne qualité, et elle a de moins en moins besoin de se reposer sur les brevets étrangers, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui a permis de ce rattrapage ? Eh bien, il a été porté par une hausse spectaculaire des dépenses en R&D. En parité de pouvoir d'achat et prenant en compte l'inflation, entre 2000 et 2018, les dépenses ont été multipliées par plus de 8. Nous, on stagne. Eux, ils augmentent leurs dépenses en R&D. Il n'y a pas de secret. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Cette hausse de dépenses en R&D est le reflet d'une politique industrielle ambitieuse. Deux exemples de cette politique industrielle, le programme Innocom et la politique des industries stratégiques émergentes. Donc c'est une politique industrielle tournée vers l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, l'idée de la politique industrielle, c'est qu'il faut faire des politiques industrielles pro-innovation. D'accord ? Le programme Inocom, qu'est-ce que c'est que le programme Inocom? Le programme Inocom, c'est lancé en 2008, c'est une politique incitative, c'est un crédit d'impôt sur les sociétés de moins 40% pour les entreprises de 8 industries identifiées comme secteur d'avenir. J'aimerais bien qu'on fasse ça pour le crédit impôt recherche, vous voyez? Ça serait bien déjà de faire comme eux. Conditionné à la part des dépenses en R&D et emplois qualifiés, part du revenu généré par vente de produits ou services high-tech, okay, et nombre de brevets et efficacité du management. Donc, ils sélectionnent des secteurs d'avenir et ils disent, on va se concentrer sur ces secteurs d'avenir. Voilà. Et ils regardent aussi s'il y a croissance de l'entreprise. Bon, ils regardent différentes choses qui montrent que je suis high-tech, que je crois, que je suis dynamique, etc. Hein? Ils comparent des entreprises qui ont tout juste le score pour être éligibles à ce crédit à des entreprises qui étaient juste du même score, mais elles n'ont pas été prises, voyez. Donc, j'ai le groupe de traitement qui sont celles qui sont juste au-dessus du score qui ont été prises et celles qui sont juste en dessous du score qui l'ont pas été, donc elles sont de qualité comparable. Et tu regardes l'évolution future des entreprises qui ont été financées par ce programme Inocom, et le groupe de traitement et le groupe de contrôle qui sont les entreprises du groupe Inocom qui n'ont pas été financées. Eh bien, le revenu sont multipliés par 3 pour les produits high-tech dans les 2 ans après obtenir le crédit d'impôt, grâce à l'investissement de cette baisse d'impôt dans la R&D pour faire de nouveaux produits, le label Inocom qui booste les ventes, en moyenne 2 brevets ou logiciels dépensés en plus par an, déposés en plus par an. Donc on voit vraiment que Inocom, ça a marché. Un autre programme, la politique des industries stratégiques émergentes. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est lancé en 2012 et l'objectif assigné par le Conseil d'État chinois, la Chine encouragera fermement une innovation intégrée et participera activement à la division internationale du travail. Elle renforcera l'adoption, l'assimilation et l'absorption de technologies étrangères, tirant au maximum profit de l'innovation globale. Et bien concrètement, les industries choisies deviennent prioritaires dans les différents dispositifs de soutien public, subventions de R&D, aide financière au recrutement de talents. Le dispositif concerne 7 secteurs, efficacité énergétique et technologie environnementale, technologie de l'information de nouvelle génération, biotech, matériel haut de gamme, nouvelle énergie, nouveaux matériaux et véhicules fonctionnant aux nouvelles énergies, d'accord? En fait, le rattrapage chinois est aussi porté par des flux d'investissements directs étrangers à destination de la Chine. Ceux-ci l'ont notamment attiré par la politique des zones économiques spéciales. Et ils ont eu, évidemment, une politique des zones économiques spéciales pour attirer des entreprises étrangères. Lancé dans les années 80 par Deng Xiaoping, conditions d'implantation préférentielles, droits de douane plus faibles, baisse d'impôts, extraterritorialité pour les cadres venant y travailler, assouplissement des règles de collectivisation. Et tout ça, ça a marché très bien. Et on voit que si on regarde les investissements directs en proportion du PIB depuis 80, vous voyez, au début, ça augmente beaucoup. On observe bien une forte hausse entre 80 et 95, puis une lente décrue c'est cohérent avec l'idée de monter en puissance de la recherche domestique. Voilà. Les investissements directs étrangers sont complémentaires de l'investissement domestique dans la R&D. L'implantation de firmes étrangères produit des effets de ruissellement sur le niveau technologique des entreprises chinoises voisines. Le rattrapage chinois doit aussi à une politique volontariste d'investissement dans le capital humain. Plusieurs réformes ont été menées, des réformes organisationnelles. Depuis les années 90, il y a des projets pour améliorer le fonctionnement des universités. On a introduit les systèmes de tenure track. Vous savez, on embauche pour une période limitée et vous avez 7 ans pour vous montrer si vous êtes bon ou pas et on vous décide de vous garder ou pas de vous garder. Et vous devez montrer ce que vous savez faire. C'est le système en vigueur aux États-Unis. Eh bien, ils ont imité ce système de tenure track en Chine. Voilà. Et l'impact de cette réforme des tenure track, c'était l'augmentation du nombre de publications pour les professeurs embauchés en tenure track. Voilà. Il y a eu un autre programme, 1000 talents, lancé en 2008. L'objectif, lutter contre la fuite des talents vers l'étranger. L'organisme recrute des scientifiques, des entrepreneurs de haut niveau, originaires de Chine, mais implantés à l'étranger. Le programme a été très critiqué par les pays occidentaux qui voyaient une façon de réaliser des transferts de propriété intellectuelle forcés. Et voilà. Et donc, si vous voulez il y a vraiment, une politique très volontariste chinoise pour aller vers l'innovation, pour aller au-delà de l'imitation, vers l'innovation. Alors maintenant, je vais toujours me poser le problème, est-ce que quand même, ils n'ont pas profité du fait de coopérer avec des pays libres? Eux ne sont pas complètement libres, mais ils ont envoyé beaucoup de gens aux États-Unis et en Europe, dans des pays beaucoup plus libres. Donc, on peut dire, peut-être qu'eux, ils n'étaient pas tellement libres, mais ils ont, si vous voulez, profité de la liberté ailleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je n'ai pas beaucoup de liberté chez moi, mais je vais envoyer des gens dans des pays où ils sont très libres. Comme ça, ils peuvent faire des innovations de rupture là-bas et puis revenir chez moi, mettre en œuvre ces innovations de rupture. Tu peux tout à fait imaginer un truc comme ça. C'est-à-dire de dire, moi, je garde mon parti communiste, je garde mon système, mais j'envoie les gens dans des pays plus libres. Donc, c'est chez eux, ce n'est pas chez moi. Et après, quand ils ont fait des erreurs, je les fais revenir avec ces programmes-là, d'accord ? Donc, voilà. Donc, eh bien, on va regarder un petit peu, et ça, c'est un papier que j'ai fait avec Raphaël Vargon, Luc Baluskevitch, Céline Antonin et David Stromberg. Et on a regardé, c'est parce qu'il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, Trump 1, donc c'est le premier mandat Trump. Trump décide de restreindre les liens, les possibilités de collaboration entre chercheurs chinois et chercheurs américains. Et c'est ce qu'il appelle la China Initiative. Et donc, ça veut dire que, eh bien, c'est mis en place par la première administration Trump en 2018. L'objectif est de protéger la propriété intellectuelle américaine contre l'espionnage économique chinois. Concrètement, ce programme rend plus complexes les procédures administratives pour des projets de collaboration entre chercheurs américains et chinois. Il limite l'accès à des financements publics pour de tels projets. Et il est mis en œuvre. Alors, on regarde la productivité des chercheurs chinois et la qualité de leurs recherches à partir d'une base de données qui est Scopus, qui est développée par Elsevier. Elle regroupe cette base un grand nombre de publications dans un large spectre de sujets permettant de retracer l'intégralité de la carrière d'un chercheur, notamment ses affiliations et ses collaborations au cours du temps. Voilà. Alors, eh bien, ce que je vais montrer, c'est qu'il y a un effet causal, c'est qu'effectivement, quand Trump a mis ses restrictions, ça a eu un effet, surtout sur la qualité de la recherche chinoise. Donc, ça montre que quand même un peu, la qualité de la recherche chinoise profitait de la liberté ailleurs. Voilà. Hein, et en tout cas, du fait qu'il y avait les États-Unis. Alors, peut-être que c'est juste la liberté ou juste les États-Unis. Voilà. Donc, on aura un groupe de tests, un groupe de contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est comme mon groupe de traitement ? C'est des chercheurs chinois dont la plupart des citations viennent de travaux avec des co-auteurs américains. Mais aucun co-auteur américain, vous voyez, européen. Vous voyez, donc c'est des chercheurs chinois c'est des chercheurs chinois qui doivent beaucoup à des co-auteurs américains et très peu à des co-auteurs européens. Le groupe de contrôle, c'est des chercheurs chinois, une grande partie de leurs citations venant de travaux. Dans leurs travaux les plus cités, si vous voulez ça que je veux dire. Hein. Donc le groupe de traitement, c'est des chercheurs chinois dont les travaux les plus cités sont des travaux avec des co-auteurs américains mais non européens. Le groupe de contrôle, c'est des chercheurs chinois dont les travaux les plus cités, c'est avec des chercheurs européens mais pas des chercheurs américains. D'accord, ça, comme en Europe, il n'y a pas eu de China Initiative, ce qui est avec l'Europe continue, ce qui va avec les États-Unis change. D'accord. Et donc, évidemment, comment s'assurer que ces deux groupes sont comparables et que leur performance aurait évolué de manière similaire s'il n'y avait pas eu la China Initiative ? Eh bien, on a un processus d'appariement. On constitue les deux groupes de manière à ce qu'en moyenne, à chaque chercheur dans le groupe de traitement corresponde un chercheur dans le groupe de contrôle avec le même domaine scientifique, le même nombre de publications avant la période de traitement. Donc, on fait en sorte de s'abstraire de toute différence intrinsèque qu'il y aurait entre les chercheurs du groupe de traitement et les chercheurs du groupe de contrôle, d'accord ? Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont dans le groupe de traitement, dont les meilleures publications, c'était avec des co-auteurs américains, mais pas de co-auteurs européens, eh bien, après la China Initiative, il y a moins de publications, mais il y a surtout des publications de moindre qualité. La qualité va baisser. Et les partenariats perdus avec les co-auteurs américains ne sont pas remplacés par des partenariats équivalents avec des co-auteurs chinois. Donc ça montre bien qu'il y a une dépendance. Vous voyez, si on regarde les publications, l'effet sur le nombre de dalles de publications, il y a très légèrement décroissant. Donc quand vous êtes un co-auteur du groupe de traitement, que vous étiez très dépendant de co-auteurs américains, le nombre de vos publications va un peu baisser après la China Initiative. Je vous perds là. Là, je vous perds là. Mais ce qui est important, c'est l'effet sur les revues de premier plan. C'est-à-dire que la China Initiative, elle va baisser le nombre de très bonnes publications. C'est-à-dire qu'effectivement, les Chinois ont profité de collaborations avec les Américains. Et quand on met un frein à ces collaborations, ça fait un peu baisser la qualité de la recherche chinoise. C'est clair ? Donc pas besoin de trucs comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on voit là. Vous voyez, là, il y a une vraie baisse, quoi. Vous voyez, voilà, et hop, ça baisse, là. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la baisse est particulièrement prononcée dans les secteurs où les États-Unis sont le plus proches de la frontière technologique. C'est-à-dire que plus un secteur est représenté à droite sur ce graphique, plus la part des chercheurs américains dans les citations est grande. Donc vous voyez, énergie, chimie, etc. Vous voyez que là, l'effet est très grand. Par contre, ici, médical, bio, machin, là, c'est pas très grave. Mais il y a des domaines, c'est surtout dans les domaines où les Américains sont très très bons, qu'évidemment, ne plus travailler avec des Américains, ben, ça a un effet très négatif. C'est confortant. Vous me direz, ben, tu redécouvres la roue. Mais c'est toujours quand même, c'est des tests, parce que si on ne trouvait pas ça, on se dit que toute l'approche est fausse, d'accord ? Et on trouve bien ce qu'on espère trouver. Voilà. C'est bien dans les secteurs où la part des chercheurs, c'est bien dans les domaines où les États-Unis sont les meilleurs, que ne plus travailler avec des Américains va baisser la qualité de la recherche chinoise, d'accord ? C'est-à-dire sur la droite de ce graphe. Voilà. Cette baisse du nombre de publications dans les meilleures revues provient notamment d'une baisse de publications dans les revues d'articles coécrits avec un chercheur américain. Les collaborations sino-américaines existantes ne sont donc pas renouvelées. Et la baisse du nombre de publications avec un nouveau co-auteur américain joue également un rôle important. Ce sont des nouvelles collaborations sino-américaines qui sont touchées par le dispositif. Donc c'est également, c'est pas juste que je n'ai plus de collaborations, c'est que avant je pouvais en faire de nouvelles et maintenant je ne peux pas en faire de nouvelles. Donc c'est pas juste que je coupe des relations avec des gens avec qui je travaillais, c'est que j'aurais pu faire de nouvelles collaborations avec des Américains et je ne peux pas le faire autant après la China Initiative. D'accord ? Donc elle a eu un effet négatif important sur la qualité de la recherche et cet effet vient du non-renouvellement de partenariats existants et également de la perte d'accès à de nouveaux partenariats entre la Chine et les États-Unis. Il touche en particulier des projets où la Chine apporte le capital et les États-Unis les idées. L'effet est d'autant plus fort quand les États-Unis dominent le champ scientifique. Mais on s'est concentré ici sur l'effet sur la Chine. La question que pourriez-vous poser, c'est et les Américains dans l'affaire. Est-ce qu'eux ont perdu ? Alors, on va regarder. Ça, c'était autre article-là. Donc, ils étudient l'effet de tension géopolitique de la China Initiative sur la recherche aux États-Unis. Ils ont une approche également bibliométrique. Ils utilisent une autre base que nous, la PubMed, un équivalent de Scopus spécialisé dans les domaines de la biologie et de la médecine. Et ils font une comparaison similaire entre les chercheurs américains ayant collaboré avec des co-auteurs chinois avant le programme et des chercheurs américains ayant collaboré avec d'autres nationalités avant le programme. D'accord ? C'est la même idée de base, hein ? D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils trouvent ? C'est que l'écart passé au logarithme pour des questions de lisibilité entre les publications des auteurs des deux groupes, eh ben, l'écart va augmenter. C'est-à-dire que l'écart est stable. Avant, quand vous regardez l'écart entre les publications des chercheurs américains qui travaillent avec d'autres pays que la Chine et d'autres des co-auteurs ailleurs que la Chine et des co-auteurs avec la Chine, vous voyez que c'est stable avant. Et à partir de la China Initiative, évidemment, eh bien, les chercheurs ayant, après l'introduction du programme, eh bien, l'écart. Alors, ce qui se passe, c'est que l'écart est stable. Ceux qui ont les chercheurs américains ayant des co-auteurs chinois tendent à publier davantage avant, mais cet écart-là va se réduire fortement ces chercheurs, voire le nombre de publications diminuer par rapport aux autres. Donc, en fait, il y avait un avantage. Quand j'étais un chercheur américain avant, je publiais avec des chercheurs chinois, je tendais à faire plus de travail, mais cet écart va être réduit par le China Initiative. Donc, ça veut dire que les Américains, ils perdent également. On s'intéresse aussi à des résultats, on obtient des résultats similaires, on s'intéresse au nombre de fois où les articles sont cités par d'autres articles scientifiques. Également, vous en êtes mieux cité quand vous étiez avec des co-auteurs chinois, mais cet écart va être réduit. C'est un indice de qualité quand, après la China Initiative. Donc, alors maintenant, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a une comparaison. On a des effets de grandeur comparables sur les chercheurs des deux pays. Les deux côtés ont pâti de la China Initiative, mais l'effet agrégé serait peut-être plus fort en Chine, car elle est plus dépendante de la recherche américaine que l'inverse. Il y a 146 000 chercheurs chinois qui avaient au moins une collaboration avec les États-Unis, tandis qu'il y avait 99 000 chercheurs américains ayant au moins une collaboration avec la Chine. Donc c'est sûr que, si vous voulez, l'effet est le même, mais il y avait davantage de Chinois qui dépendait de collaboration américaine que d'Américains qui dépendaient de collaboration chinoise. Ça avait un effet de masse, si tu veux. Mais si tu fais abstraction de cet effet de masse, les effets, par chercheur, l'effet est comparable. Les deux perdent autant, sauf qu'il y avait plus de chercheurs américains, chinois, qui dépendant de recherche américaine. Mais c'est intéressant que tous les deux ont perdu, quoi. C'est du lose-lose, quand même, hein. D'accord ? Donc, conclusion. Eh ben, on arrive. Non, c'est pas là. Voilà. L'Europe, je reviens. L'Europe est distancée par les États-Unis, mais l'Europe est dispensée également par la Chine en matière d'innovation. Et d'accord, donc l'Europe, elle doit travailler, elle doit mettre en œuvre Draghi et comment elle va le faire, évidemment. Et puis, les États-Unis, comme la Chine, ne sont pas infaillibles. Je pense que la guerre, si vous voulez, le repli sur soi, est dommageable pour tout le monde. De la même manière que restreindre le commerce international, ça fait moins de revenus pour un innovateur, ça réduit la concurrence et ça empêche les transferts de technologie. Donc ça, c'est toutes des raisons pour lesquelles ça freine l'innovation. Également, si vous voulez, les barrières de type China Initiative, eh bien, ça ralentit la recherche des deux côtés, du côté chinois et du côté américain également. Donc voilà, donc ce n'est jamais une bonne chose d'avoir le repli. Alors évidemment, on est dans un monde, nous l'Europe, si les États-Unis ont une attitude assez protectionniste et les Chinois également dans d'autres domaines, l'Europe ne peut pas rester à ne pas avoir une réponse. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est d'être les avocats de l'ouverture, mais évidemment, on ne peut pas ne pas répondre à des attitudes protectionnistes et agressives de la part. Je crois qu'une des choses, c'est qu'une des leçons à tirer, c'est que ce qu'ont en commun les Américains et les Chinois, par-delà leur grande différence de système, c'est que les Chinois et les Américains investissent beaucoup dans l'innovation de rupture. Ils ont vraiment des écosystèmes très différents, mais tous les deux investissent beaucoup dans l'innovation de rupture. Ils relient une politique industrielle et concurrence, parce qu'il y a de la concurrence en Chine quand même. C'est pas la même concurrence. C'est de la concurrence entre des leaders régionaux. Les régions en Chine se font la concurrence. Donc la concurrence en Chine, elle est entre régions chinoises. Et puis il y a de la politique industrielle chinoise où on aide plusieurs firmes, pas une seule. Donc il dit, je ne donne pas tout à une entreprise, je donne à plusieurs et je vois laquelle se débrouille le mieux. Donc, bien qu'il n'ait pas du tout notre système, ils ont essayé quand même, et c'est ça que peut-être certains ont sous-estimé, ils ont trouvé à l'intérieur de leur système des manières d'avoir de la concurrence quand même, en faisant notamment les concurrences entre régions. C'est très intéressant. Donc ils ont pu quand même, à leur manière, réconcilier politique industrielle et une forme de concurrence qui n'est pas la même que chez nous. Les Américains, ils ont la politique de la concurrence et ils ont les DARPA. Et nous, l'Europe, au nom de la politique de concurrence, on s'est refusé à faire de la politique industrielle. Et on n'a pas de DARPA. Ça, c'est un des gros problèmes que nous avons. La liberté, effectivement, les Chinois n'en ont pas beaucoup. Mais il y a toute série de domaines où, dans les trucs très technologiques, ils disent c'est pas très très grave. Et ils se sont opposés beaucoup sur des collaborations en envoyant des gens travailler dans des pays plus libres et où ils ont pu profiter des collaborations avec ces pays-là. Alors jusqu'où maintenant ça va, ils vont pas pouvoir le faire autant. On voit qu'il y a déjà un peu des effets de la China Initiative, mais peut-être qu'ils vont quand même s'en sortir. Mais on voit quand même que la Chine, malgré tout, elle commence à faire de l'indé. Il y a toute une série de domaines où la Chine est à la pointe. Alors ce que n'a pas fait encore la Chine, c'est les grandes innovations. Elle n'a pas découvert l'équivalent de l'IA ou l'équivalent des technologies de l'information ou les technologies, voilà, les changements de paradigme. Elle est très proche de la frontière, elle améliore et elle est à la pointe. Mais il n'y a pas encore d'innovation cunienne que l'on doit à la Chine, quoi. Voilà. Moderne, quoi. Ça, elle n'a pas fait encore. Mais nous non plus, ça fait longtemps. Nous, depuis la machine à vapeur non plus, nous n'en avons pas fait. Donc, bien que quand même l'IA... nous avons beaucoup de paternité dans l'IA. Yann Lequin et des gens comme ça ont une énorme paternité, mais seulement le problème, c'est que l'innovation de rupture ne s'est pas faite en France. Ils sont partis ailleurs la faire. Donc voilà un petit peu le. Alors évidemment, la Chine est un pays qui est très déterminé à innover. On va voir s'ils ont, on va voir le problème de la middle income trap ou pas. Et l'Europe, ben, elle est là où elle est. Et les pays qui sont appelés à être les piliers du redressement européen, ils ont leurs problèmes, quoi. Donc, je ne sais pas où on en sera dans 18 mois, dans 2 ans, et voilà, quoi. Mais il faut... Let's hope for the best. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.